you mind being bossed? Oh, you learn to follow orders when each day's just the same, and they all use the same voice. Just while you go to work for the next 50 years, that's your freedom of choice.
Bonsoir, c'est GMC Plus, Yves au micro, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et DAB Plus car nous sommes passés à la modernité. N'oubliez pas de télécharger la souscription car nous avons besoin de votre soutien actif pour maintenir la radio de qualité, le matériel, tout ça. Numéro du studio 01 43 71 89 40, vous allez sur le site de la radio et vous allez trouver le programme avec l'ensemble de la grille des émissions. Vous avez également la possibilité de réécouter les émissions pendant 12 mois à partir de la fin de la diffusion. Vous pouvez réécouter ou télécharger. Vous avez ma page Facebook If Jazz Libre sur laquelle je mets l'ensemble des informations, les playlists, les images, les comptes rendus de concerts, etc., etc. Ma page Insta, très très rarement parce que je suis pas du tout moderne. Et si vous avez besoin de renseignements plus précis, vous m'envoyez un mail à dk51@sfr.fr, playlist, choses comme ça, et je vous répondrai. Ce soir, Nicolas, la technique qui a bien voulu accepter de remplacer notre technicien habituel Franck, que je remercie chaleureusement pour son aide active. Et puis ce soir, nous avons un habitué des studios, Hervé Célin, le pianiste, compositeur, chef d'orchestre, et qui vient nous parler d'Éric Satie dans avec son nouvel album qui s'appelle Jazz Impression. Alors, je précise que le concert de présentation a été hier au Bal Blomec, donc en fait on s'est vu hier. Donc merci Hervé d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ce nouvel opus et tu es un habitué des studios, donc j'espère que ça va, tu t'es remis de tes émotions sur le concert d'hier.
Oui, d'émotions, que des belles émotions.
Oui, c'était un très beau concert, il faut dire les choses. J'étais très surpris, ce qu'on disait hors micro, de la qualité d'écoute du public.
Ça m'a énormément touché aussi, parce que la qualité d'écoute, la qualité du silence... C'est-à-dire que, en fait, moi, je vis les concerts beaucoup, encore plus maintenant, comme des histoires et comme des moments de vie, et pas seulement comme de la musique que l'on vient jouer en jouant des morceaux les uns derrière les autres, et puis après tout le monde chez soi. Donc, quand je sens à ce point-là qu'un public rentre dans l'histoire et fait partie de l'histoire, j'avoue que ça m'émeut beaucoup.
Et alors, c'est ce que je disais, c'est que pour nos amis auditeurs qui savent pas forcément comment fonctionne un piano, mais sur un piano, il y a des touches noires et blanches, et puis il y a des pédales. En général, sur un grand piano, il y en a trois. On a une pédale qu'on dit sustain, qui est un piano, qui est forte, une pédale piano, donc pour jouer plus doucement, et puis une pédale au milieu, plus rarement, ce qui s'appelle une pédale chorus, qui permet de prolonger les notes graves pendant qu'on joue ailleurs. Tant qu'on maintient la pédale sustain, c'est-à-dire en anglais on prolonge le son, le son continue.
La résonance est toujours
la résonance jusqu'à. Et là.
Moi je joue avec ça en plus parce que. Oui, mais. En plus au Bal Blomec on a la chance d'avoir un très très bon piano. Donc c'est un plaisir de l'utiliser dans toutes ses possibilités, et ce phénomène de résonance et de prolongement de la résonance jusqu'à l'extinction complète, que ce soit du piano ou même de la résonance par la pédale, c'est un plaisir, et on sentait, c'est vrai que la résonance habitait toute la salle et que le public était attentif, quoi.
Et tant que tu n'avais pas relevé la pédale, ils n'ont pas applaudi.
Non.
C'est la première fois que je vois ça. En général, ils applaudissent avant.
Alors, là-dessus, si j'ai le temps, je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai sorti l'album Jazz Impression sur Claude Debussy, j'avais fait un concert de sortie à la maison Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye, qui est un petit musée, en fait. Hein. Et Martial Solal était venu m'écouter. Et dans la salle de concert, en fait, le piano, il est sur une estrade, et les gens sont assis, eux, par terre. Ce qui fait que, en fait, ils voient un peu l'estrade en hauteur, et Martial était dans les premiers rangs, et en fait, il me l'a dit après, il a regardé que mes pieds. Il m'a pas regardé jouer, il a écouté la musique, et il a regardé que mes pieds, et il était stupéfait de voir l'agitation de mes pieds sur les pédales de ce pauvre piano à la maison de Bugy. Il avait retenu que ça. Mais ça l'avait, c'est devenu un gag après, entre nous.
Alors, après Forêt de Bussy, tu t'attaques à Eric Satie. Alors, j'aurais tendance à dire, autant sur Debussy et Forêt, c'était non pas facile, mais peut-être plus évident. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui me semblait plus évident. Qu'Eric Satie, qui est un personnage extrêmement complexe, très plein de paradoxes, vraiment un personnage paradoxal. Alors, j'ai fait 3 émissions dans GMC+ avec l'intégrale pour piano d'Eric Satie, donc je connais bien le sujet. C'est quelqu'un de tout à fait insaisissable. Alors, comment
je crois qu'il l'était pour lui-même.
Oui,
déjà,
je pense
pour
aussi.
Commencer.
Comment t'as abordé cette musique?
C'est-à-dire que c'est pas par hasard. C'est vrai qu'il y a ce centenaire que l'on célèbre cette année, le centenaire de sa mort. Donc l'opportunité était là, mais c'est dans la continuité. C'est-à-dire que après Debussy, après Ravel, Satie, bien qu'il ne soit pas dans la continuité, il est devenu nécessaire, il est devenu incontournable. Donc, et puis que ce soit le jazz ou l'improvisation ou la musique contemporaine, se sont beaucoup inspirés de Satie, parce que justement il proposait une autre voie que celle des grands compositeurs érudits qui pouvaient justement déjà, qui avaient déjà pas mal fait bouger les choses. Hein. Debussy a quand même révolutionné l'écriture dans la musique savante. Ravel a pris la suite et avec sa personnalité, on a fait ce que l'on sait. Mais Satie a choisi une toute autre voie qui était finalement nécessaire, peut-être. Et c'est justement c'est ça aussi qui m'a fait aller vers Satie, puisque moi j'ai travaillé avec au conservatoire à Paris quand j'étais élève en piano classique. J'ai travaillé 5 ans avec Aldo Ciccolini. Et Aldo a été le premier dans les années 60 à enregistrer une intégrale de Satie. Et ça a complètement légitimé l'œuvre de Satie. Ravel avait déjà essayé de défendre Satie à l'époque, parce qu'évidemment il était décrié par tous les grands critiques, les journalistes et compagnie. Mais moi j'avais cette histoire avec le fait qu'Aldo Ciccolini soit très proche de la musique de Satie. Ses élèves, on était tous un petit peu sensibilisés à ça. Donc c'est pas une histoire anodine ni gratuite quoi pour moi. Et puis après, cette bizarrerie, ce côté iconoclaste, inattendu, naïf parfois, moi ça m'excitait quoi, ça m'excitait. Et après, ce que j'espère, parce qu'en fait quand j'ai fait toutes ces jazz impressions, que ce soit Debussy, Fauré, Ravel, j'ai beaucoup repris finalement les œuvres à mon compte. J'ai pas jazzifié le classique. J'ai déshabillé complètement les œuvres pour les rhabiller autrement. Bon, en faisant la même chose avec Satie, le piège c'était de dénaturer la musique et l'esprit de Satie. J'espère que j'ai réussi à éviter l'écueil.
C'est ce que j'ai mis dans mon petit post sur Facebook en disant que je pense qu'il n'aurait pas renié la réappropriation en fait que vous en avez faite aussi vous collectivement.
Ouais, le groupe. Ça aussi, c'était une nouveauté pour moi, c'est-à-dire que ayant fait déjà Debussy, Fauré et Ravel avec beaucoup de piano. Ce que je disais hier au public aussi, c'est que j'étais moi-même fatigué du piano, et de mon piano surtout. Donc il fallait que je trouve autre chose, d'autres sons. Et ces petits trios que j'ai mis en place, à la fois piano, contrebasse, flûte, et piano, saxophone, vibraphone, me permettaient aussi d'aller vers des sonorités inattendues, et puis de traiter les choses autrement, avec une petite part d'orchestration sonore, pas d'orchestration harmonique ou même orchestrale, mais sonore, de créer des univers sonores différents. Et parce que Satie, pour moi, ça demandait ça.
Quand je me suis penché sur les trois émissions sur l'intégrale de Satie, il y avait des morceaux que je trouvais, ça m'a fait un peu la même chose avec Bartok aussi. Il y a des choses qui sont, comparaison n'est pas raison, mais il y a quelque chose de monk un peu dans l'écriture, dans l'attitude. Il y a quelque chose qui est, c'est pas comparable, mais quelque chose d'ailleurs que Monk était par rapport au jazz, et que Satie, je trouve, est dans cette époque. Enfin, quand on lit beaucoup de choses sur Satie, c'est vraiment... Voilà. Mais dans sa musique, il y a ça aussi. Parce que, en dehors, je dirais, des gymnopédies qu'on doit jouer comme le boléro à peu près tous les quarts d'heure dans le monde... elles seront très belles, les gymnopédies, c'est pas ça, mais au bout d'un moment, je trouve que ça devient un peu...
Non, puis c'est réducteur. Voilà. Satie, c'est pas que les gymnopédies, hein, c'est ça surtout.
Ça va beaucoup plus loin. Il y a énormément de pièces.
Ah oui. Et puis des pièces qui présentent une certaine complexité et une certaine richesse, parfois inattendue pour quelqu'un comme Satie. Mais comme tu dis, c'est un peu le monk de la musique classique. Pourquoi ? Parce que c'est la personnalité avant tout. C'est quelqu'un qui est parti ailleurs. Monk, il y avait eu avant lui, il y avait eu Art Tatum, il y avait eu Fats Waller, il y avait James P. Johnson, il y a eu aussi Oscar Peterson et tout ça. Monk, lui, il est arrivé, il n'y avait aucune référence, si ce n'est Monk. Et donc, il a fait sa musique et il a fait ce qu'il avait envie de faire, sans tenir compte des autres. Et c'est ce qu'a fait Satie aussi. Hein. Donc l'analogie, elle est pas si si inattendue que ça. Hein.
Et alors, je sais que je dis toujours choisir, c'est renoncer. Qu'est-ce qui t'a déterminé dans le choix des titres justement de plus
Bah là, c'est les coups de cœur, hein, parce qu'il y a aucun calcul. Alors évidemment, les gymnopédies, les gnossiennes, on se dit bon, de toute façon, faudra bien en mettre une ou deux, parce que sinon, sinon, on va pas comprendre pourquoi on passe à côté. C'est comme si on joue Beethoven et qu'on joue jamais la sonate au clair de lune, quoi. Il arrive un moment. Mais de toute façon, comme je les ai complètement transformés, on les reconnaît parfois à peine.
Ah oui.
Mais après, bah, j'ai fait ce que tu as fait, puisque j'avais envie de faire, c'est-à-dire j'ai écouté Satie pendant des heures, et puis j'ai vu ce qui m'accrochait, j'ai vu aussi ce qui pouvait correspondre à ce que j'avais envie d'en faire. J'ai découvert des choses que je connaissais pas, certaines mélodies, les airs à faire fuir, pièces froides, choses comme ça. Et j'ai trouvé des petites choses là qui m'ont accroché tout de suite en me disant ça je peux l'exploiter, ça il me le faut, ça. Et
dans Parade il y avait beaucoup de choses.
Oui, il y avait des choses aussi. Oui, ah bah toute façon après oui, pourquoi t'as pas pris ça, quand j'ai fait Debussy ou Ravel, c'est pareil, il arrive un moment bon bah faut se limiter. Mais non, il y avait pas de méthode, il y avait pas de prérequis ou de se dire je vais prendre je savais pas.
Bah c'est la subjectivité de l'artiste en fait, hein, tout simplement quoi.
Oui.
Non mais c'était alors par contre qu'est-ce que ça fait de jouer avec des jeunes musiciens et musiciennes, puisqu'on va les nommer déjà. Il y a Christelle Raquillet à la flûte, Cyril Drapé à la contrebasse, Rémi Fox au sax alto et soprano et Romain Lay au vibraphone, qui sont des jeunes musiciens.
Que moi j'ai formé, enfin ils n'ont pas attendu après moi non plus, hein, mais que j'ai eu la chance de suivre pendant quelques années lors de leur passage à la classe de jazz du CNSM de Paris. Donc je les connais bien, et je les connais depuis longtemps, puisqu'ils sont arrivés tout frais, tout jeunes. Et alors il y en a qui sont Rémi Fox et Romain Lay sont sortis déjà depuis assez longtemps. Christelle Raquillet et Cyril Drapé sont plus jeunes, donc sont sortis ces dernières années. Et comme je disais aussi hier, on a eu cette chance au conservatoire finalement de voir passer des musiciens d'une grande qualité, d'un grand talent, qu'on a cadré, formé, dirigé, et donc on en a tous repéré quelques-uns quoi. Et quand j'ai monté ce projet, outre l'envie de faire sonner les choses autrement, quand j'ai eu envie de faire appel à des petites quelques trios improbables, j'ai fait appel à eux parce que c'est eux que je voulais. C'est ces gens-là, c'est Christelle, c'est Romain, c'est Rémi, c'est Cyril. Je savais comment ils jouaient, comment ils se glisseraient dans la peau du personnage que j'avais à leur faire jouer. Donc j'ai pas pris une flûte, j'ai pas pris un sax alto, j'ai pas pris une contrebasse et un vibraphone. J'ai pris Christelle, j'ai pris Rémi, j'ai pris Romain, j'ai pris Cyril parce que avant toute chose, j'avais envie de me servir de ce que eux allaient m'apporter.
Et ça a mis beaucoup de temps de préparation pour arriver à ce résultat.
Oh, oui, mais après, quand je me mets au travail, je travaille beaucoup. Pas vite, mais beaucoup. Donc, l'écriture de tout cela, ça m'a pris 6 mois. Et peut-être 2 ans de réflexion, d'écoute et de travail. Par contre, 6 mois, pas forcément tous les jours. Mais par contre, si je m'y mets, je travaille facilement 12 heures par jour. Parce qu'en fait, quand j'attrape une idée, je la lâche pas. Et j'ai tellement peur de la perdre. Alors évidemment, je peux enregistrer, je peux écrire, je peux... Parce qu'en fait, ce que j'ai envie à la sortie, c'est que tout sonne comme si c'était improvisé. Parce que moi, j'aime toujours mon cheval de bataille qui est de dire que l'improvisation, c'est une attitude et pas un répertoire. Donc à partir de là, moi, j'ai souffert énormément quand j'étais musicien classique d'être, comment dire, emprisonné par les partitions et par ce qu'il fallait apprendre, ce qu'il fallait savoir. Et en fait, le jazz m'a libéré de tout ça.
Tu parles à un coup. Tu prêches un convaincu. Moi, j'ai exactement eu la même réaction. Donc,
en fait, quand je fais ces orchestrations-là, quand je conçois ces pièces-là, c'est aussi pour que ce soit des pièces d'expression à l'état pur. Évidemment, c'est écrit parce que il arrive un moment où il faut fixer les choses et tout, mais c'est totalement secondaire. Le but n'est absolument pas de jouer une partition. Le but, elle est de raconter une histoire.
Justement, j'allais te poser la question, mais tu y réponds avant. Il y a pratiquement pas d'improvisation dans les pièces là.
Non, il y a des petites flèches d'improvisation, des petites bribes, parce qu'il faut pas se tromper de propos non plus. Hein. On est là pour illustrer aussi la musique d'un compositeur, même si elle est entièrement transformée. Il faut lui donner une autre forme et tout. Et la forme, elle est pas forcément dans l'improvisation parce que sinon, ça risque de partir dans tous les sens. Ça sera peut-être pas très abouti. Par contre, le résultat doit sonner comme de l'improvisation. Et mon rêve, et je l'ai vécu pour plein d'autres répertoires, plein d'autres expériences, c'est que on puisse arriver sur scène, les mains dans les poches, et jouer 2 heures de programme sur Satie, 2 heures de programme sur Ravel, sur Debussy, sur Fauré, sans avoir à se référer à la moindre note écrite, parce que tout sera écrit dans la tête et dans l'âme, quoi. C'est ça, la plus belle des choses.
Mais Ravel disait ça, il disait qu'il aurait voulu que les orchestres jouent avec autant de liberté que le jazz. C'était son truc.
Ça existe quand même, parce que bon, les grands interprètes, ceux qui nous touchent quand ils jouent le répertoire de la musique savante, c'est parce qu'ils jouent ça comme si c'était... En fait, ce qui est important, c'est que quand un musicien monte sur scène, la version de l'œuvre qu'il va donner, même si elle est écrite de A à Z, même si elle a ses codes et ses obligations, ça doit sonner comme une version unique, qui est la version de ce moment-là, qui sera pas la même que celle du lendemain et qui est pas la même que celle de la veille. Et c'est là qu'on est dans l'improvisation.
J'avais énormément aimé Richter comme pianiste. Enfin, bon, voilà. On va écouter le premier morceau. On va écouter dans l'ange. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout écouter, mais de toute façon, c'est très bien.
Tout le monde va acheter le disque. Mais
tout le monde doit acheter le disque. En plus, pas cher et tout ça. Voilà.
Très belle pochette.
Et puis un livret avec une petite explication sur chaque thème. Et d'ailleurs, je reviendrai dessus parce que bon, on en reparlera. Oui. On va commencer par Je te veux. Alors, quelques mots sur ce thème-là précisément.
Alors, Je te veux, c'est une chanson en fait. C'est une chanson cabaret. Ça date de l'époque où Satie tirait le diable par la queue et il était.
Qu'il avait toute sa vie. Hein.
Oui, de toute façon. Mais là, c'était ses débuts, donc il travaillait dans les cabarets, il accompagnait des chanteurs, et puis on lui demandait parfois d'écrire des chansons ou d'écrire des arrangements sur des chansons, et il avait écrit cette chanson cabaret pour être joué, chanté au Chat Noir, qui était un fameux cabaret à Montmartre. Et dans la version originale, bon, bah c'est très très chanson cabaret parisienne, et donc moi je l'ai entièrement transformé, évidemment.
Eh bien, on va l'écouter. C'est parti. GMC+, Radio Libertaire 89.4 avec Hervé Célin pour nous parler de son dernier album qui est sorti hier.
Il est sorti le 6 juin.
Le 6 juin.
Donc la semaine dernière.
Satie Jazz Impression. Alors oui, on parlait sur le fait qu'il écrivait sans barre de mesure. Alors pour les néophytes, une partition, vous savez, c'est avec 5 lignes, et puis on met des petits pâtés de différentes formes, et puis il y a des barres verticales qui coupent tout ça, ce qu'on appelle des barres de mesure. Et lui, en fait, il les utilisait pas. Mmh. Et c'était
Mais il les utilisait pas, mais il y a du, comment dire, comment on peut appeler ça, on dirait il y a un time ou un groove ou une métrique quand même qui s'impose. Le fait de pas de mettre de barre de mesure, c'est juste le fait de ne pas vouloir verticaliser la musique. Ça, c'est très important. Mais parce que je pense qu'il avait dû sentir qu'on l'a verticalisé beaucoup trop, alors qu'elle ne devrait pas, puisqu'en fait, la barre de mesure, c'est juste un élément mécanique et théorique de la musique. Mais c'est pas ça qui... faut jouer au-delà des barres de mesure. Mais alors, lui, il avait trouvé la solution. Pour jouer au-delà des barres de mesure, eh bien, on les supprime.
Un peu comme Ornette, qui donnait aucune indication harmonique, en fait, dans beaucoup de thèmes.
Oui, Ornette avait inventé la fameuse harmolodie. Donc, c'était la... Chacun sa façon de gérer les problèmes inhérents à la fausse route.
Alors, bien que Satie se soit fâché avec Debussy à la fin, ce qui est un peu idiot, mais bon, je suis fâché avec beaucoup de monde depuis. je trouvais ça génial. Les commandements du catéchisme du conservatoire. Alors, remis à neuf, avec le chiffre 9, il avait une graphie. Alors, il dit 1. Dieu Bussy seul adorera et copiera parfaitement. 2. Mélodieux point ne sera de fait ni de consentement. 3. De plan toujours tu t'abstiendras pour composer plus aisément. 4. Avec grand soin tu violeras les règles du vieux rudiment. 5. Quinte de suite tu feras, et octave pareillement, ça, on va y revenir. 6. Au grand jamais ne résoudra de dissonance aucunement. 7. Aucun morceau ne finira jamais par accord consonant. 8. Les neuvièmes accumulera et sans aucun discernement. 9. L'accord parfait ne désirera qu'en mariage seulement ad gloriam tuam. Et c'est marqué erit satis amen. Alors, je trouve ça...
C'est un précurseur de Pierre Boulez, en fait.
Oui, John Cage a été celui qui a beaucoup fait pour Satie aux États-Unis.
Oui, ouais. Mais ils se sont tous inspirés de Satie, en fait. Hein. Même Steve Reich ou...
John Adams,
Morton Feldman. Alors, qui a inspiré l'autre, je ne sais pas. Mais en fait, ce côté un petit peu... voix parallèle, minimalisme... naïveté, musique répétitive, il a tout fait, Satie.
Mais oui, parce qu'avec le fameux Vexation.
Et Vexation, oui.
Qui était...
C'est toi, combien de fois? 840 fois
840 fois, oui, je crois.
Ça fait deux jours et demi.
Oui. Ouais. Et John Cage l'avait réduit à 24 heures, je crois. Et donc, il a été critiqué pour ça. Alors, il faut quand même un peu décoder dans cette prière-là. Quinte de suite tu feras et octave pareillement. Parce qu'il y avait des règles en musique classique de composition où on ne pouvait pas faire.
Les quintes parallèles, les octaves parallèles, c'est interdit. C'est interdit, mais bon, ça a sauté. Oui. Ça avait déjà sauté avec Debussy, peut-être même avant.
Et alors, les neuvièmes accumulera. Alors, en jazz, les neuvièmes, on a tendance à les augmenter un peu.
On va les chercher, les neuvièmes. Hein. Il nous les faut.
Et on les augmente aussi.
Oui,
beaucoup.
Oui, on les augmente beaucoup.
C'est rigolo, quand même, de cette espèce de, à la fois d'hommage à Debussy, mais en même temps qui s'approprie aussi lui-même dans l'écriture.
Bah, on peut pas passer à côté de Debussy, on peut pas le renier, on peut pas s'en inspirer, dans la mesure où Debussy c'est la révolution, c'est dans cette musique, c'est lui la charnière, c'est lui le novateur. Donc de toute façon, Puis ils étaient, c'est la même période. Hein.
Oui, oui, bah ils ont.
C'est la même époque. Donc,
il a, de toute façon, Debussy l'a beaucoup défendu oui, aussi oui. À une époque. Mmh. Cette chamaillerie était un peu
oui,
bête.
Oui, c'est des chamailleries de copains quoi.
Alors justement à propos des morceaux en forme de poire qu'on écoute si on a le temps, qu'on écoutera. Je vais d'abord, tu vas me donner ta version. Alors, celle que tu as donnée au... Et puis moi, j'en ai une autre.
C'est possible.
Hein, et je sais pas... Elle est à peu près pareille, mais pas avec les mêmes personnages. Donc, c'est toujours difficile de tirer le bon
fil. Comme j'y étais pas, de toute façon, moi je ne peux pas savoir. Mais moi, ce que je savais, c'est qu'en fait, c'était à la suite d'une discussion avec Debussy. Debussy qui reprochait à Satie qu'il n'y ait pas assez de forme dans sa musique. Et à la suite de ça, Satie aurait composé trois morceaux en forme de poire.
Alors voilà, donc il y a une, parce qu'il y a beaucoup de biographes d'Eric Satie, mais une qui s'appelle Ornella Volta, qui disait, selon elle, que c'est parce que Vincent Dindy, qui était...
son professeur,
qui était à la Schola Cantorum, avait affirmé que Péléas n'avait pas de forme, que Satie, et c'est à partir de ce truc-là, que Satie aurait imaginé le titre des trois morceaux en forme de poire, ce qui n'est bien sûr qu'une hypothèse. Donc, voilà. Il reste que Dindy, avec 500, c'était aussi un pilier de la Société Nationale, bon, voilà, de musique, soit Ars Gallica. Enfin, bon, voilà, il a... Donc, on ne sait pas trop si c'est...
Je crois que derrière tout ça, il y a de la provocation, de l'humour, et peut-être certaines formes de mal-être. Et puis, il y a l'humour, oui, il y a de...
Alors qu'il s'en défendait.
Oui, mais bon...
Voilà, c'est... En fait, il est toujours en contradiction en permanence, quoi. C'est assez marrant. Alors, on va écouter la deuxième gnossienne. Avec toujours des titres absolument invraisemblables.
Je crois que ce mot-là n'existait pas avant. La gnossienne, je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. Mais je ne sais pas si ça avait été mis sur le marché avant Satie.
Non, comme les gymnopédies non plus, je crois.
Gymnopédie, c'est une danse, je crois.
Oui, il y a une sorte de danse
avec les gymnopédies. Mais je ne suis pas musicologue ou dans ça. Je ne m'avance pas trop loin.
Oui, moi, j'essaie toujours d'avoir un peu l'information parce que j'ai de
creuser. C'est intéressant parce que c'est tellement entré dans la mémoire collective, ces gymnopédies, ces gnossiennes.
C'est incroyable.
Que quelque part, c'est important d'en connaître la genèse. Quoi.
Justement, j'ai encore.
C'est pas gratuit si
j'ai entendu
comme
encore
ça,
dans une pub.
Oui, elles sont partout.
C'est. Je sais même pas, comme il n'avait pas de descendance, qui touche les droits de...
Bah là, de toute façon, comme il est mort en 1925, c'est dans le domaine.
C'est dans le domaine,
donc
ouais.
Il n'y a plus d'héritier. Mais jusqu'au... Parce que c'est 70 ans, les...
Parce qu'il y avait une grosse salade avec Ravel.
Ravel, oui. Notamment avec le Boléro. Mais il y a encore des héritiers chez Ravel, même au jour d'aujourd'hui. Alors que Satie... On n'a pas eu beaucoup de famille.
En plus, avec cet amour.
Avec le peintre.
Avec.
Valadon.
Suzanne. Valadon. Qui n'a pas marché bien longtemps. Quoi. Il en a gardé une profonde blessure.
Oui.
Bon, on va écouter la deuxième gnossienne.
Allons-y. Thank you.
Radio Libertaire, GMC+, avec Hervé Célin pour Eric Satie, Jazz Impression. Et nous venons d'écouter la deuxième gnossienne. Donc Nicolas nous disait qu'il y avait peut-être un rapport avec la gnose, parce qu'on parlait hors micro du fait qu'il était rosicrucien. Bon, je l'avais expliqué, toutes ces... Mais en même temps, il a été au Parti communiste, à la SFIO, il s'occupait des enfants à Arcueil, enfin, donc voilà, c'était un personnage très, très très paradoxal.
Multiple et imprévisible.
Et très pauvre. Toujours dans la dèche. Mmh. Et quand il avait de l'argent, il le dépensait...
Ben, n'importe comment.
N'importe comment, en faisant table ouverte pour ses amis. Alors, on va justement parler des trois morceaux en forme de poire, donc qui sont une réponse à l'absence de forme, quelle que soit l'origine, que ce soit Debussy ou Dindy. C'est un peu étrange, c'est qu'à un moment donné, il reprend des études de musique. Satie.
Oui. Ben, c'est-à-dire qu'il avait, je crois qu'il avait été renvoyé du conservatoire.
Oui, oui, d'ailleurs, il en était fier. Il disait que tout ce qui était bien était en dehors des normes.
C'est vrai que c'était très conservateur. Hein. Ça portait bien son nom. Ça allait rester longtemps. Hein.
Oui.
Ça l'est toujours un petit peu, d'ailleurs. Oui, oui.
On est d'accord.
Voilà. C'est dit.
Oui, oui. Ben, moi, je. On ne sait pas. Quand j'avais invité Étienne Guéraud, on en parlait aussi de ce côté un peu boutonné de la musique, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, même si bon, ça a tendance quand même un peu à évoluer.
Ah oui.
D'où l'intérêt de cette émission d'ailleurs, pour justement donner un peu les liens. Et Ravel disait que. Je te passerai mon bouquin et il disait en fait quand Ravel était parti aux États-Unis qu'il avait écouté le jazz, il disait vous les Américains, vous ne prenez pas le jazz suffisamment au sérieux alors que c'est la musique du XXe siècle,
la vraie musique du XXe siècle.
Ernest Ansermé aussi avait la même passion pour Louis Armstrong, enfin bon voilà, c'est pour ça que pour moi je trouve qu'il y a une évidence entre un pont, quoi, vraiment, entre ces deux musiques.
Et oui, mais ça a eu du mal. D'ailleurs, bon, pour faire une aparté, quand le département de jazz a été créé au CNSM de Paris en 93, ça a été compliqué parce que, en fait, les professeurs du conservatoire et tous ces gens bien pensants se demandaient ce que cette musique de sauvage, de nègre, d'alcoolique et de drogué venait faire dans une maison aussi respectable que le conservatoire. Mmh. Donc ça a été très long d'arriver à établir une véritable relation avec le monde du conservatoire tel qu'on le connaissait. Mais il n'y a pas eu que là d'ailleurs, la communauté du jazz aussi a été assez dure avec ça, parce que pour eux, que le jazz rentre dans une maison comme le conservatoire de Paris, ça allait tuer le jazz. C'est-à-dire qu'on allait formater des élèves à jouer tous la même chose et que le jazz allait mourir, quoi.
C'était un peu ma...
Bah, ça a été... Oui, tout le monde a eu peur, quand même, de ce truc-là. Hein. Ça a été le boulot qu'on a fait pour que ça ne soit pas ça.
Et justement, comment on y arrive ?
On y arrive en essayant de pas imposer quoi que ce soit. De pas imposer une manière de penser, une manière de jouer, d'imposer l'exigence, mais dans la diversité. Et de laisser les jeunes s'exprimer et aller vers là où ils ont envie d'aller, sans oublier qu'on était aussi dans une école avec l'obligation de formation, et puis que le jazz, il y a une histoire, il y a une culture, il y a un répertoire, donc c'est incontournable. Si on veut faire autrement et sortir des sentiers battus, c'est pas du tout un problème, mais peut-être on va pas à l'école à ce moment-là. On vit sa vie, mais la grande force de ce département et la grande force de quelqu'un comme François Janot, qui a été l'instigateur
et l'initiateur
de tout ça. Moi, je suis arrivé au début de En fait, quand le conservatoire a été ouvert sur l'extérieur, quand la classe de jazz a eu son propre concours d'entrée, sa propre classe, et que le département de jazz et musique improvisée est devenu officiel. Mais avant cela, il y avait eu deux années de préparation, si on peut dire, où François Janot était là, et c'était plus une initiation au jazz, d'abord pour les musiciens classiques qui étaient au conservatoire, et quelques musiciens de l'extérieur qui venaient aussi pratiquer le jazz au conservatoire. Mais ça n'a pas été facile. Moi, je suis arrivé là avec une carte de visite, entre guillemets, qui a bien aidé. C'est-à-dire que moi, je sortais de la maison, puisque j'ai eu mon prix piano et musique de chambre en 80. Et que quelque part, j'étais pas un jazzman comme les autres, quoi. Donc, j'étais un peu inattaquable sur les deux versants. Les classiques pouvaient pas me fermer la porte au nez, c'était pas possible parce que je venais du même monde qu'eux, et bon, les jazzman, je faisais partie du même monde aussi puisque j'avais un peu bifurqué, mais mes origines étaient là, donc quelque part ça a aidé justement à ouvrir les portes, mais ça a pris longtemps. J'ai pas peur de dire qu'on a mis pas loin de 10 ans avant qu'il y ait un véritable échange avec les autres départements, les autres professeurs, les autres élèves. Et après, évidemment, ça a été une collaboration permanente, une considération permanente, parce qu'il y en a qui voyaient ça d'un très mauvais œil, puis d'autres qui voyaient ça, qui faisaient semblant de voir ça d'un bon œil, mais c'était rigolo, quoi. Le jazz, c'était rigolo.
Oui, un truc pour s'amuser. Quoi.
Mais non, c'est pas comme ça. Non,
c'est pas comme ça. Non.
Ils ont bien compris.
Oui, c'est. Enfin, moi, je.
Mais elle était là, la mission. Et je pense que quand on entend les jeunes musiciens qui sont sortis du conservatoire, parce que c'est vrai que, je dirais, 80% des gens qui font la vie du jazz et des musiques improvisées au jour d'aujourd'hui, en France et en Europe, sont quand même sortis de cette classe du conservatoire de Paris. Donc c'est pas pour rien, et il y en a pas deux qui jouent la même musique. Hein. Donc, quelque part, on a réussi la mission.
Et comment ils reçoivent justement tes derniers opus sur cette passerelle entre classique et jazz?
Bon, alors de quel côté, chez les classiques ou chez les jazz?
Les deux.
On n'a rien inventé quelque part, ça existait depuis longtemps. Hein. On se souvient de Jacques Loussier, de son playback. Mais là, c'était différent. C'était le fait de faire jazz, de jazzifier la musique de Bach, qui quelque part swing déjà toute seule.
Oui, c'est ça.
Groove déjà toute seule, parce que le swing, c'est un terme qui appartient au jazz et pas à autre chose. Enfin, pour moi.
Oui, moi aussi. J'ai pas peur de l'utiliser.
Voilà. Et donc dans le monde du classique, ça leur plaisait bien parce que ça permettait au classique de sortir un petit peu de son côté un peu trop étriqué et soi-disant la grande musique, la musique savante et tout ça. Puis finalement, ça permettait de libérer un peu, d'entendre aussi toutes ces œuvres de manière différente. Au départ, ce sont des musiciens classiques qui sont venus me chercher pour faire ça, sachant que j'avais un background classique. Ils m'ont dit, mais pourquoi justement tu essayes pas de... Parce qu'on avait besoin de faire changer les choses et tout. Puis finalement, dans le monde du classique, je vois bien avec le recul, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je fais ça, il reste très frileux quand même avec tout ça, parce que je présente un projet comme ça, ah oui, c'est formidable parce que on a besoin d'entendre ces musiques-là autrement, et puis le public aussi, on a besoin de l'éduquer à autre chose. Et puis au moment de passer à l'acte, c'est ah bah oui, mais si c'est trop jazz, ça va faire peur, ceci, cela, et puis on en revient toujours à la même chose. Et puis après, dans le monde du classique, du jazz, et ben le problème c'est que si on fait du jazz avec de la musique classique ou avec n'importe quoi, ben faut rester inattaquable aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on introduit les codes de la musique de jazz, donc certains enchaînements harmoniques, le swing, le ternaire et tout ça, ben il faut que ça soit parfait. Il faut que ça soit ce que ça doit être, comme si c'était du jazz. Et là, j'en reviens un peu à la double casquette que moi, je pouvais avoir. Les classiques pouvaient pas m'attaquer sur ma manière de jouer un Debussy, un Ravel ou un Fauré à la manière du classique. Et les jazz pouvaient pas m'attaquer sur ma manière de jouer le jazz, que je pratique quand même depuis un certain nombre d'années. Et puis les gens qui ont fait appel à moi sur la durée m'ont pas renvoyé au bout de 10 minutes, quoi. Donc voilà. Et puis maintenant, c'est vrai que ça se fait beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je vais arrêter. Non, non, je trouve que c'est devenu trop, trop commun et trop... Alors, il y a aussi des trucs, c'est que c'est difficile de trouver des concerts, c'est difficile de vendre des disques, c'est difficile de faire des disques. Alors, on cherche un petit peu tous les trucs qui vont faire que ça va être plus facile. Et le fait de faire jazzer la musique classique, ça marche bien. D'un point de vue commercial, par contre, c'est pas toujours très, très bien fait. Alors, moi, je pense que j'ai commencé un peu avant tout le monde. Et puis, je vais en avoir fait peut-être un peu le tour moi-même. Pour, surtout, j'ai peur de me répéter. Peur de faire toujours la même chose. Donc ça, c'est... J'étais très ami avec Martial Solal. Et Martial, il m'a toujours dit... Il est venu souvent m'écouter. La première chose qu'il me disait en arrivant, c'est « Hervé, surprends-moi ». Et chez moi, ça s'est transformé en Hervé, surprends-toi. Mmh. Donc, j'ai toujours envie, encore une fois, plus avec l'expérience et les années, de pas être là où on m'attend. Par contre, d'être toujours là où il faut être. Quand on joue du jazz, faut être là où il faut par rapport au jazz. Si on joue du classique, il faut être là. Quand j'ai joué pendant des années avec Richard Galliano sur la musique d'Astor Piazzolla, on a essayé de faire les choses aussi pour que ce soit le plus authentique possible. Et c'était une nouvelle expérience pour moi. Et ça a été. Mais c'est des choses qu'il faut vivre en profondeur et surtout avec énormément d'honnêteté, d'humilité et d'exigence. Donc pour moi, c'est ça qui compte.
Oui, ça se sent et ça s'entend. Et je dirais J'espère. Que c'est. Non, c'est. Bon, moi, je. On me connaît maintenant, je ne passe que des choses que j'aime bien. J'ai pas objectif par rapport à ça. Enfin, je peux parler de moi, mais bon, comme je suis musicien, je prétends pas à l'objectivité. Donc, j'ai pas envie de casser du sucre sur ce que j'aime pas. Parce que, d'abord, c'est idiot. Et puis, surtout, ça peut plaire à d'autres. J'ai pas forcément raison. C'est ça que je veux dire. Mais bon, je préfère valoriser ce que j'aime bien.
L'histoire, c'est toujours la même, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise musique, il n'y a que de mauvais musiciens. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a des choses qui vont te plaire et pas à moi, des choses qui vont me plaire et pas à toi. C'est pas un problème à partir du moment où c'est quand même bien fait et que les gens sont honnêtes et exigeants. Mais c'est pas toujours le cas.
Alors on va écouter les morceaux en forme de poire. Qu'est-ce que tu peux nous dire en avant-propos, en dehors de...
Ben c'est qu'on s'est bien amusé à faire ça, tout simplement, parce que c'est quand même une des pièces emblématiques de Satie, et elle est peut-être une des plus, entre guillemets, construites, rythmiquement, faussement harmoniquement, puisque c'était quand même pas le propos de Satie, et au niveau de la forme, justement, puisqu'on en parlait. Et alors ce qui m'a intéressé aussi là-dedans, c'est qu'en fait... C'est une œuvre multiple, puisqu'elle est en plusieurs mouvements. Et ce qui était intéressant, c'est finalement de la jouer dans le désordre. Et ça aussi, c'est important, parce que si l'idée, c'est toujours de lutter contre ce qui est prévisible. Alors, on va jouer les morceaux en forme de poire. Donc, on commence par le début, on va jouer le milieu, puis après, on va jouer la fin. Et non, si on commençait par le milieu, qu'on jouait la fin en premier, et puis peut-être le début à la fin, si ça nous inspire. Ça me plaît bien.
Eh ben, on va l'écouter. Thank you. GMC+, il y a quelque chose qui ne m'avait pas frappé, mais que je retrouve ici, bien qu'il s'en soit défendu également, Eric Satie, il y a quelque chose de... Là, à la fin, bon, évidemment, côté un peu kafkonce, avec vraiment cet esprit très français, mais aussi... le début du cinéma avec ses illustrations de piano, alors que lui, la modernité, il s'en foutait complètement. C'est assez.
Ouais. Mais je crois que c'est dû peut-être à la. En fait, finalement, il écrivait de la musique comme un peintre, peut-être. C'est-à-dire qu'il avait avant tout des images, des couleurs, des sons, et pas de la technique. Il n'avait pas de véritable technique d'écriture. Il avait juste des espèces d'impulsions à la fois sonores et colorées. Et ce qui ressemble beaucoup à l'image, et notamment au cinéma. Et en plus, à la naissance du cinéma. Et donc, le cinéma muet et toute la musique qui accompagnait. Mais aussi, on voit bien dans ses partitions toutes ces annotations... crée énormément d'événements, finalement. Et dans le cinéma muet, l'événement est très important. Et les cassures, parce qu'en fait, il n'y a pas de texte. Donc, de toute façon, il faut bien créer des chocs au niveau de l'image. Et finalement, Satie s'inscrivait tout à fait là-dedans aussi.
Oui, c'est ça. Oui,
donc, c'est une espèce de phénomène global. Alors, est-ce qu'il a côtoyé? Est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a... Je sais pas, mais en tout cas, il y avait, c'était une époque aussi où ces choses-là se développaient, étaient présentes à tous les coins de rue, en fait.
Oui, parce qu'en fait, dans le cinéma muet, à part quelques cartons, de temps en temps, le vilain...
Oui. Mais sinon, pour arriver à dynamiser une image, il fallait créer des événements... inattendu, voire assez violent parfois.
En fait, ça crée un problème.
Assez caricaturaux.
Oui.
Et finalement, la musique de Satie, elle est dans la caricature aussi, dans la caricature de lui-même.
Et en fait, c'est des sacrés improvisateurs, les mecs qui regardaient le film, qui jouaient en même temps qu'ils regardaient.
Le fameux duo Wiener et Doucet.
Et Doucet, oui.
Ah, c'est remarquable, ça. Remarquable.
Mais ils ont fait partie du Sérail, d'ailleurs, Wiener. Dans les nombreuses biographies de Satie, on le voit, il a fréquenté quand même un nombre incroyable de gens. Enfin, Picasso pour Parade,
et Cocteau.
Bon, c'est quand même pas.
Ah oui, mais il y avait un foisonnement au niveau de la créativité et puis de la modernité et puis de des choses non conventionnelles. Picasso, tu parlais de Parade, c'est lui qui avait fait les décors, je crois.
Oui, qui a fait scandale d'ailleurs.
Oui, mais il fallait bien. Stravinsky a fait scandale aussi.
Oui, avec le sacre. Le massacre.
Le massacre du temps de... Oui, printemps.
Bon, on écoute quand même la gymnopédie, parce que t'en as fait qu'une.
Oui, je sais plus. Non, il y en a
la
deux.
Première.
La première. Oui, non, oui. La première. Elle est intéressante parce que, enfin, intéressante. C'est pas à moi de dire ça, mais.
Si.
Elle est avec le trio, avec la flûte et la contrebasse. Et en fait, j'ai pas voulu la jouer telle quelle, mais j'ai. Parce que la mélodie, elle est ultra connue. Donc, fallait trouver une solution. Et la solution, en fait, ça a été de déplacer cette mélodie son par son et d'attribuer juste une note à chaque instrument. Et puis, finalement, à la fin, d'essayer de reconstruire le puzzle C'est une manière de faire aussi, finalement. C'est qu'au lieu de jouer la mélodie dans toute sa continuité, ben on l'éclate complètement en répartissant les notes un peu à tout le monde et dans toutes les différentes tessitures et octaves des instruments.
Mais ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, il a aussi un peu souffert de ça, des gymnopédies, où on l'a un peu restreint.
Oui, bah oui. Alors, c'est des œuvres de jeunesse, les gymnopédies.
Oui, donc, en plus, oui.
Il a fait des choses plus pas plus intéressantes, mais il y a d'autres choses à écouter chez
Satie. Il y a d'autres choses. Ogive, notamment. Enfin bon, il y en a tellement. Je me souviens pas tous parce que j'avais passé l'intégrale par Jean-Joël Barbier, qui a été celui, après Aldo, début des années 70, à avoir fait l'intégrale. Bon, ben on va écouter la première gymnopédie, Nicolas.
Thank you.
GMC+, Radio Libertaire 89.4 avec Hervé Célin dans les studios pour nous parler de ce dernier opus consacré à Eric Satie qui vient en complément de, des trois émissions que j'avais faites sur Eric Satie l'année dernière. Oui, l'année dernière. Et j'ai perdu le fil. Si, il y a une chose que je voulais dire, c'est que le son de l'enregistrement est excellent, ce qui est quand même un plus.
Oui, parce que ça permet une gestion de l'espace qui est très intéressante, parce que c'est important aussi d'arriver à placer cette musique-là correctement dans l'espace et de pas sentir de manque sur les résonances sur et pour ça là ça a vraiment été très très bien dosé. Ça a été enregistré au studio de Meudon et donc vraiment en plus avec un piano magnifique qui est un Fazioli qui est magnifiquement préparé, donc la moindre note prend tout de suite une espèce de dimension qui fait qu'on a envie de l'écouter avant d'écouter longtemps avant de jouer la suivante.
Vous avez beaucoup répété pour non.
Non, j'ai répété peut-être un après-midi avec chacun des trios. Après, il y a un gros travail de conception, d'écriture. Moi, je savais exactement ce que je voulais. Je les ai laissés venir aussi à moi avec des suggestions et tout ça, mais en général, c'est à peu près ce que j'ai envie d'entendre et ça va très vite. Et puis, c'est assez paradoxal parce qu'évidemment, c'est du jazz, il y a un peu d'improvisation, pas tant que ça, mais c'est très écrit. C'est très écrit parce que comme je cherche vraiment beaucoup, longtemps, ce que je pourrais faire de cette musique-là. Donc, je déshabille complètement l'œuvre originale pour la rhabiller autrement. Et il faut structurer.
Oui,
parce que la liberté, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans le fait de dire, alors on prend la première gymnopédie, puis on improvise, et puis ça va être libre, et ça va être jazz, et ça va. Non, ça c'est. Oui, on peut le faire, bien sûr.
Ça a été fait.
Et puis si on le fait sur une gymnopédie, il faut faire la même chose sur le reste aussi. Au bout d'un moment, ça va être insupportable, c'est toujours la même chose. C'est écrit, ça peut être aussi tout le temps la même chose.
C'est en ce sens que ça change un peu justement par rapport à beaucoup de choses qui ont été faites. En ce sens, je pense à Peer Gynt par Duke Ellington, qui était là une relecture assez rigolote, enfin peut-être un peu ratée, en ce qui je trouve. Mais après, il y a aussi le travail de Bill avec Klaus Egerman, qui était un peu comment dire. Sage, peut-être, presque attendu d'une certaine manière.
Trop respectueux.
Peut-être, je sais pas. Enfin, Bill, il n'y avait pas de problème pour qu'il se fasse dans, qu'il se mette dans le truc, mais peut-être que c'était. Je vais pas dire commercial parce que mais un côté un peu américain clinquant quoi que là je trouve que aussi bien sur Debussy et Ravel comme t'étais venu il y a déjà plus de 6 mois, j'ai l'impression que c'était hier, le temps passe à vitesse folle. Je trouve que c'est une autre démarche. Pardon, c'est autre chose, c'est plus novateur, plus
C'est-à-dire qu'il y a une, pour moi, enfin, mon approche et mon attitude, elle est véritablement dans la création. C'est-à-dire que je recrée, puisque au départ le matériau il est existant, mais je veux en faire quelque chose de différent et pas seulement parce que je vais mettre un rythme jazz ou 3 harmonies jazz ou un peu d'improvisation. C'est vraiment reconceptualiser complètement l'œuvre. Et surtout, moi, me mettre dans la position du compositeur, quoi. D'un compositeur, pas de Satie ou de Ravel ou de Forêt, mais d'un compositeur. C'est le matériau qui est différent, c'est tout.
Je reviens un tout petit peu sur le tout début de ma question. Comment tu t'as envisagé sur Eric Satie par rapport à Ravel ou Debussy, qui était peut-être un peu plus évident. Enfin, comment est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu impressionnant ou difficile, ou se dire ou là il faut pas que j'aille faire.
Non, alors il y a déjà une chose, c'est que ayant fait Debussy, ayant fait Fauré, Ravel, bon, il y a aussi des projets qui sont jamais sortis en disque. J'ai fait ça sur Brahms, sur Chopin, sur Poulenc, sur Dutilleux aussi. J'ai quand même une certaine expérience. Et Satie, ce qui m'intéressait, c'est justement que c'était différent. C'était autre chose. Il fallait trouver une autre façon, comme lui a trouvé une autre voie par rapport à Debussy, à Ravel, à d'autres. Moi, je devais trouver une autre façon de faire aussi. Alors, on retrouve ce que je suis, mais il était évident que je pouvais pas traiter Satie comme j'avais traité Debussy, Fauré ou Ravel. Ça, c'est évident. Et ce côté un petit peu, inattendu, répétitif, naïf, iconoclaste, dépouillé, à la fois modal, faussement harmonique, et ben c'était dans ma caisse à outils, quoi.
Et quelquefois il y a même un peu d'aridité dans ces compositions.
Ah oui.
Quelque chose qui va vraiment à l'os, quoi. Hein, c'est...
Après, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce répertoire-là, parce que je me sentais inspiré. Je ne ferais pas Satie à la commande, c'est-à-dire je ne ferais pas tout Satie parce que je peux faire tout Satie. Je ne sais pas, ça m'inspirera tout. Il y a des choses, je me suis dit, ça, je ne saurais pas par où l'attraper. Donc, j'ai laissé tomber.
Pour Dutilleux, ça, je serais preneur.
Alors, il y a déjà des choses qui sont...
Notamment sur les métaboles.
Oui. Alors, les œuvres symphoniques, c'est une autre histoire. Hein. Parce que quand j'avais fait notamment pour Debussy, le prélude à l'après-midi d'un faune, on est sur un gros travail de texture orchestrale. Bon, il y a des bribes mélodiques, et puis il y a ce thème fameux, hein, mais c'est moins facile. C'est moins facile. Alors, Dutilleux, j'ai travaillé sur la sonate pour piano, qui est un chef-d'œuvre pour les pianistes. Et notamment sur le troisième mouvement qui s'appelle Chorale et Variations, qui est un chef-d'œuvre. Et déjà, Chorale et Variations, c'est un thème et des improvisations. Donc, quelque part, le matériau, il tend les bras, quoi. Il tend les bras.
Mais les métaboles.
Ah oui. Mais il y a un projet du Tilleux dans l'air, parce qu'évidemment, l'année prochaine, c'est le centenaire de sa naissance. Donc il y a des choses dans l'air avec Dutilleux. Et moi je suis passionné de sa musique.
Ouais, c'est...
Parce que je trouve qu'elle groove bien sa musique à Dutilleux. Et puis harmoniquement, tout en étant très contemporaine, elle est très proche des couleurs du jazz.
Oui.
Et c'était aussi un grand mélodiste, grand rythmicien. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, de parler avec lui. Et donc c'est quelque chose qui me touche, Dutilleux. S'il devait y avoir peut-être une dernière expérience de mes jazz impressions, ce sera autour de Dutilleux.
Varèse.
Je connais pas assez bien cette musique-là.
Plus complexe, peut-être.
J'ai pas été un musicien, moi, très porté sur la musique contemporaine. Et puis, on nous le faisait. Messiaen et Dutilleux, c'était déjà les œuvres contemporaines quand moi j'étais au conservatoire. C'était pas moderne, c'était contemporain.
Oui. Alors, on va écouter les airs à faire fuir.
Ah, c'est la découverte un petit peu de mes recherches quand je cherchais le répertoire sur Satie. Je suis tombé là-dessus, je dirais pas par hasard, parce que de toute façon, j'ai compilé des dizaines et dizaines de partitions. Et il y a là-dedans une espèce de ritournelle qui est très bluesy. Et là, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh là là. Par ici, la bonne soupe.
Et donc, ça fait partie d'un ensemble qui s'appelle
les pièces froides. Les titres, toujours.
Oui, alors.
Les airs à faire fuir.
Je conseille quand même le bouquin que. Parce qu'il y en a plein, hein, évidemment. Donc, il y a Ornella, celle que j'ai parlé tout à l'heure, mais dont elle m'échappe. Mais là, ça vient de sortir. C'est par Christian Vasselin, avec un W. Et. C'est pas mal, et notamment à la fin, il y a une sorte de calendrier de sa naissance jusqu'à la fin, avec des... Bon, par exemple, si je prends 1885, naissance d'Alban de Berg, d'Eric von Stroheim et de Sacha Guitry. Donc voilà, on a des repères,
oui,
des repères
points,
historiques.
Des points de
et ça c'est quand même
comparaison au niveau.
Ouais, c'est vachement bien. Par exemple, quand ils composent des ogives, à Atlanta, on invente le Coca-Cola. Et c'est en 1886.
Ouais.
Bon, voilà. Et c'est la mort de Liszt. Alors oui, c'est absolument. Avant juste d'écouter la pièce phrase, je voulais juste quand même faire un, parce que dans les émissions, que ce soit pour Debussy, Ravel, Fauré, il y a quand même ils sont obnubilés par Wagner. Enfin, il y a quelque chose avec le wagnérisme et Satie, lui, refuse, en fait.
Ah ben oui, évidemment. C'est flagrant.
Il y a une histoire.
Mais je crois que ça vient aussi de sa formation. Satie n'est pas passé par l'apprentissage, harmonie, fugue, contrepoint, orchestration, analyse, composition, direction d'orchestre. Ou alors là, évidemment, le maître absolu, bah, c'est Wagner, après c'est Mahler, après c'est et toutes les grandes symphonies et tout ça. C'est pas le monde de Satie, ça.
Non, pas du tout, non.
Donc de toute façon...
Les autres aussi sont en rupture, Ravel, Debussy.
Oui, mais d'une autre manière. Mm. D'une autre manière. Ils sont quand même beaucoup plus, presque plus conventionnels que le serait Satie.
Oui, quoi que.
Parce qu'ils sont issus quand même de cette culture-là. Même si Debussy était un grand admirateur de Wagner. Même si on n'entend pas forcément Wagner dans son œuvre, mais le gigantisme de l'orchestre. Mais peut-être que si Satie avait été plus, ça veut rien dire ce que je veux dire, parce qu'il n'a pas été, il pouvait pas être plus ceci ou plus cela. Mais bon, s'il avait suivi une voie un peu plus académique, et ben peut-être qu'il aurait été, oui, imprégné par tout ça aussi, comme l'ont été Debussy et Ravel. Mais eux, ils avaient une autre manière de le retranscrire après. Mais Satie, il n'a pas du tout, c'était pas du tout ce chemin-là.
Non, même après avoir repris ses études.
Oui. Oui, non, mais il avait des lacunes et une envie de connaître, de savoir un peu plus de choses quand même. Et puis je pense que le fait qu'on lui soit tombé dessus à bras raccourcis, en lui disant que sa musique c'était nul et qu'il savait rien, il savait pas écrire, ça a dû le titiller un petit peu quand même.
Oui, il appelait ça lui-même sa musique d'ameublement.
Ouais.
Donc il avait fait des musiques pour des offices notariaux, pour des mairies, enfin bon. Bon, voilà, c'est tout dans l'esprit de cette idée. Bon, donc on a dit qu'on écoutait les airs à faire fuir. GMC+, Radio Libertaire 89.4. Avant de passer la parole à l'émission suivante, Epsilonia, je te remercie à nouveau d'être venu nous parler de ça, de ton dernier album, mais est-ce que tu as des dates de concert de prévues, bientôt ?
Eh ben non. Non. D'amener non, de... non, j'ai un été totalement vide de concerts.
C'est terrible.
Et la prochaine prochain concert, ça doit être au mois de... Pour l'instant, mois d'octobre ou mois de novembre.
Mais y compris en jazz ou...
Dans tout, tout confondu.
C'est vrai.
C'est comme ça, c'est bizarre. C'est pas. C'est pas que j'ai pas envie de jouer, hein, mais voilà. Et pourtant, des festivals, il y en a. Hein.
Ah bah oui.
Jazz et autres. Hein. Mais bon, mais ça a été la même chose depuis. Enfin, je me plains pas parce que je. En faisant quand même beaucoup de choses et en touchant un petit peu à beaucoup de registres différents, en mettant les choses bout à bout, tout va bien. Et puis bon, j'ai... Mais je regrette de ne pas jouer plus, et notamment plus de jazz. Parce que, bon, voilà, il y a tous ces projets classiques. Mais le jazz me manque. Le jazz, comme, parce que moi, j'ai grandi, je me suis construit en jouant 29 jours par mois, quoi. Dans les clubs, le Petit Opportun, oui. le Duc des Lombards, le Méridien, la Huchette, le Fürstenberg. Tous les soirs. Et petit à petit, tout ça, ça s'est étiolé. Mmh. Et puis là, ben oui, je me retrouve avec un été sans un seul concert.
Oui, ben, c'est si des producteurs nous écoutent, qui n'hésitent pas à prendre contact avec nous.
Oui, mais bon.
C'est un peu.
Ben, c'est bizarre. Alors, je sais pas, je suis peut-être déjà trop vieux, mais. Je suis pas très cher, ça, donc ça, on peut le dire.
Il faut pas commencer comme ça.
Non, je suis pas trop cher, Je suis plus cher qu'avant, mais je suis pas trop cher.
Faut pas dire ça.
Non, et puis bon, je maintiens une activité, une actualité, plein de projets. Mais bon, en fait, si j'avais pas tous ces projets que je mène, enfin, j'ai des partenaires, parce que là, il y a un label quand même qui me suit depuis toutes ces années sur ces projets-là, et ça, c'est une chance. Hein. D'avoir un label qui produit, qui paye le studio, qui paye la promotion, qui est derrière moi. C'est le label Indécence Calliope. C'est un label classique, au départ. Mmh. Et en fait, qui avait envie, justement, de créer une passerelle. Et pour ça, c'est formidable. Mais pour le reste, c'est compliqué.
Il faudrait venir avec eux à la prochaine émission pour justement, puisque GMC+, est vraiment spécifiquement dédié à cette passerelle. Quoi. Je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir les acteurs. J'ai fait venir une attachée de presse de festival parce que dans la musique, il y a évidemment les artistes qui sont en lumière, mais il y a tout un tas de petits membres derrière.
Sans tous ces
acteurs.
Et encore plus au jour d'aujourd'hui. Parce que maintenant, un artiste tout seul, il ne fait pas grand-chose.
Ouais. Par quoi on pourrait terminer avant de dire au revoir à nos auditeurs
et puis, alors, est-ce qu'on a envie de terminer avec du piano
non,
tout seul ou est-ce qu'on a envie d'entendre tous ces jeunes musiciens qui sont absolument...
Alors, juste une chose, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais rajouter ou une question que je t'ai pas posée
Non, on a fait un joli tour d'horizon et on a parlé de plein de choses.
Eh ben, on peut peut-être passer avant-dernière pensée.
Ah oui, parce que ça va nous emmener dans un univers différent.
Idylle au bas des méditations.
Oui, qui sont toutes les trois dédiées à des compositeurs. Idylle à Debussy.
Au bas d'à
Paul Dukas. Et
Méditation à
Chabrier ?
Non,
pas Chabrier. J'ai un trou.
Qui était aussi prof, qui était Albert Roussel.
Albert Roussel, voilà.
Voilà.
Oui, c'est intéressant ça, mon dernière pensée.
Eh ben, merci Hervé.
Merci à toi. Toujours un plaisir.
C'est toujours quand tu veux, voilà.
Voilà, écoute,
on va
je le saurai.
Faire
je
une carte d'abonnement.
Je sais. Oui, oui. On va tamponner les petits carrés.
Et puis, ben, j'espère un projet de jazz comme celui que tu avais fait sur Phil Woods.
Phil Woods, oui.
Ah oui,
sûr,
ça.
C'est un très beau disque aussi.
Oui.
Il y a eu très peu de concerts, mais très beau disque.
Oui, c'est dommage. C'est magnifique.
Ah oui, oui. Arrête de rien.
Merci.
Merci beaucoup Yves, merci.
Et nous on se donne rendez-vous dans une semaine avec des nouveautés en première partie et le pianiste Romain Villet pour son spectacle sur Oscar Peterson. Voilà, Fraternity Swing, soyez fort contre l'adversité et couvrez-vous, mettez-vous de la crème solaire. Et à bientôt, bye bye.
Sur la terre ferme, dans l'angle mort de la pierre. Et soudain, tout disparaît. Dans un flamboiement rouge qui embrase le ciel, le parfum s'élève et retombe sur la terre ferme, dans l'angle mort de la pierre. Le bien a enfin triomphé.
Bonsoir à tous, c'est Epsilonia, Epsilonia Electron Libre qui revient ce soir avec JB au micro, François à la technique comme d'habitude. Et on va commencer l'émission avec Jean-Claude Risset. Et ensuite on écoutera plein d'autres choses comme Alain Gossin, Jacques Stibler, Low Flying Aircraft. On écoutera aussi Bernard Pamegiani, New Direction, plein de choses. Je vous réserve la surprise. À tout de suite. Thank you.